le 16 juillet 1995, à l'occasion du 53e anniversaire de la rafle du Veldiv, le président Jacques Chirac a prononcé un discours pour l'histoire.
Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions.
Ce jour-là, Jacques Chirac a simplement reconnu les faits.
Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
50 ans après la libération, la République a enfin admis la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France durant l'occupation. Un long combat et une victoire pour les survivants au nom de celles et ceux qui sont morts dans les camps.
Derrière la volée triomphale, il y a partout un glas pesant qui teinte. Écoutons bien, c'est l'heure des funérailles. De ceux qui n'en eurent point, assassinés dans les chambres de torture, ou qui, dans tous les Auschwitz et tous les Buchenwald, sont partis en fumée.
À la fin du XXe siècle, au moment où Jacques Chirac prononce son discours du Veldiv, on a pu avoir le sentiment que les choses étaient fixées dans les esprits et que la mémoire de la déportation serait protégée. Le travail des historiens, soutenu par le témoignage des rescapés, a œuvré pour mettre en lumière les responsabilités.
C'est dans l'honneur que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
Et pour reconnaître les différents types de déportations durant la Seconde Guerre mondiale.
Les modalités en seront discutées ultérieurement.
Or, au moment où les derniers témoins sont en train de disparaître, il semble que certains acquis mémoriels qui ont fondé les sociétés d'après-guerre soient remis en cause dans le monde occidental. Alors, après la mort d'Edmond Michelet, de Gisèle Guimau, de Denis Kahn et celle de tous les déportés, comment prendre soin de l'héritage qu'ils nous ont légué? C'est ce que vous allez découvrir dans ce dernier épisode.
À vous qui m'écoutez, auditeurs fidèles de notre radio libérée, nous souhaitons que ceux d'entre vous qui ont été sinistrés retrouvent bientôt un toit et un foyer, et que bien vite se cicatrisent les blessures et que se relèvent les rêves.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Les Déportés. Huitième épisode, la mémoire.
Nous pénétrons maintenant dans l'enceinte du camp que nous allons visiter en essayant de vous en dépeindre aussi sobrement que possible l'austère et l'atroce tableau.
J'ai vu, alentour de ce camp de Dachau, des rescapés au visage transparent se traîner vers le soleil et tomber sur la route.
L'immense cortège des ombres qui survivait encore se leva sur ses jambes flagellantes.
Le 15, vers 1h de l'après-midi, nous avons vu arriver la première voiture de radio qui nous annonçait en trois langues, français, russe et allemand, que le camp se trouvait désormais placé sous le contrôle britannique.
On n'avait même pas la force d'être heureux.
Mais tous ceux qui ont été libérés à Auschwitz ont une seule volonté, parler pour qu'il n'y ait plus jamais d'Auschwitz.
Le récit débute à Montreuil, dans l'Est parisien, le 17 janvier 2025.
Allô ?
Oui, je suis devant la porte et le code ne marche pas.
J'arrive.
Ce jour-là, Martine Abbat, notre reporter, est au pied d'un immeuble, une ancienne imprimerie transformée en loft.
Bonjour.
Bonjour.
Ça y est, déjà harnaché ?
Ça y est, direct. Merci de m'accueillir.
Martine a rendez-vous avec Moïra, une des deux filles de Gisèle Guimau, notre premier personnage.
On peut peut-être se mettre là.
Oui, c'est pas mal, hein.
C'est pas
face
mal,
à face.
Ou côte à côte, je préfère.
Côte à côte.
Ouais.
Commandeur de la Légion d'honneur et titulaire de la médaille de la Résistance, Gisèle Guimau est morte en 2013. Elle avait 90 ans. Retournons à Montreuil.
Alors, je me présente, je suis donc la fille de Gisèle Guimau. Je m'appelle Michelle G. Smith, mais je me suis appelée Moïra maintenant.
Mais votre prénom, c'est Michelle à l'origine.
Oui. Michelle. Alors, pourquoi Michelle ? Enfin, ma mère a hésité au départ, elle voulait m'appeler Moïra, à cause du bouquin de Julien Green, dont elle était complètement fanatique, et qui s'appelait Moïra, une héroïne irlandaise. Et en fait, la famille n'a pas voulu que je m'appelle Moïra, ils ont décidé de m'appeler du prénom du premier fusillé du groupe, Michel Farré, qui a été fusillé en 41.
De son groupe de résistants.
De son groupe de résistants, de la cité ouvrière dans laquelle elle était née.
Dans le Calvados.
Dans le Calvados.
Un prénom pour le moins chargé de mémoire. Alors, quel rapport entretenait Gisèle Guimot avec ses souvenirs de la guerre dans le cadre familial ?
Elle a toujours voulu parler. Elle en a parlé constamment. On a baigné là-dedans en permanence.
Pour vous, c'était lourd à porter ?
Oui, très lourd et en même temps, d'une certaine façon, c'est notre histoire. On était les filles de déportés. C'est notre fondation aussi. Alors à l'époque, chaque fois qu'on a rencontré de nos amis, elle leur serrait la main et 5 minutes après, ils savaient qu'elle avait été déportée. Et donc ils écoutaient avec horreur les histoires qu'elle racontait.
Elle n'avait pas de tabou, elle racontait tout.
Aucun tabou. Aucun tabou. L'histoire de la déportation, de la résistance. Il fallait que les gens savent que la résistance et la déportation avaient existé, que ce n'était pas seulement la Shoah. Il y avait vraiment une histoire aussi de toutes ces personnes qui avaient résisté et qui s'étaient fait enfermer dans des conditions épouvantables et qu'il y en a une grande partie qui était mort en déportation. Donc il fallait que ça perdure, enfin que cette histoire
se sache,
y compris aux générations futures. C'est pour ça qu'elle a beaucoup témoigné dans les lycées.
Soucieuse très tôt de ne pas entretenir l'amalgame entre les nazis et le peuple allemand, Gisèle Guimot a voulu éduquer ses deux filles dans ce sens.
Moi, j'ai fait des colonies allemandes.
Il fallait connaître la culture allemande.
Absolument. Oui, elle nous a envoyés en Allemagne. On est allés très tôt à Mauthausen aussi, Françoise et moi.
Vous y avez été une fois, visiter ?
Ah non, au moins 5 fois. Ah non, à chaque fois qu'elle pouvait m'emmener, elle m'emmenait.
C'est Rai. Avec mes copines, on tirait des wagonnets plein de pierres pour construire les ballasts. Ce chemin ne mène qu'à la mort.
Donc elle est retournée plusieurs fois à Mauthausen.
Oui, mais elle y était tout le temps à Mauthausen.
Vous avez un souvenir de quand elle vous emmène là-bas
à... Oui, bien sûr. Elle pleurait. Elle pleurait à chaque fois, elle pleurait beaucoup. Je crois que même elle a eu un malaise une fois, il me semble.
On était couverts de cendres. Même le ciel était...
Donc vous disiez que c'était quelqu'un qui vivait tout le temps dans ses souvenirs.
Oui. Et qui avait des crises terribles.
D'angoisse,
oui, la nuit surtout. En fait, elle se maîtrisait tout le temps. C'est la nuit que tout ça se déclenchait. Elle criait au feu, je brûle. Au feu, je brûle.
Dans son sommeil.
Dans son sommeil.
Et elle se souvenait après ?
Ah oui, j'étais au camp. Ça se passait mal. Voilà. En fait, elle a continué de vivre dans le camp toute sa vie.
Aucun de nous n'a des nuits complètes. Alors, on retrouve le camp et dans nos cauchemars, souvent, et dans nos insomnies.
Gisèle Guimot, 2001.
Si moi, je ne dors pas, à quoi je pense ? Au camp. Même si j'ai des problèmes à la maison, même si j'ai un petit problème avec mon mari, même si je viens de m'attraper avec mes filles, eh bien, si je ne dors pas, ça c'est complètement occulté, je n'y pense pas, et je me retrouve par miracle au camp pour un souvenir quelconque qui se rattache parfois à la vie quotidienne. Si je viens d'avoir un problème avec mes filles, je me retrouve au camp avec quelqu'un qui me raconte. Je me demande comment vont être mes enfants quand je vais rentrer après 2 ans d'absence. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Ils penseront que je les ai abandonnés. Je me retrouve au camp en train de revivre des trucs comme ça. C'est un peu fou, c'est irrationnel, mais c'est comme ça.
J'en ai pas fini avec ce camp. Vous allez être condamnée à le voir à travers mon regard.
Elle a vécu dans le camp
et vous aussi,
et d'une certaine façon, nous aussi. Alors, moi, j'en avais pas marre, mais ma sœur, elle en a eu marre. Moi, je trouvais que ça faisait partie de notre histoire. D'une certaine façon, j'étais fière d'avoir une mère aussi...
Combattante.
Et ça, elle a toujours été une combattante, et du début à la fin, y compris à l'intérieur du camp.
Ce qu'elle vous a transmis, c'est quoi ? Son intranquillité, ses insomnies ?
Ouais, moi je suis insomniaque. Ma sœur peut-être pas, mais moi oui. Intranquillité, ça c'est sûr. Quelque chose à gérer sur ces angoisses qui nous ont certainement constituées, oui. Sans doute un truc latent, quoi, qui fait qu'on réagit tout le temps.
Elle est décédée en 2013.
Et la veille de son décès, moi j'ai été à l'hôpital, elle était aux Invalides, et j'ai été lui mettre des bigoudis, parce qu'elle devait témoigner le lendemain matin.
Elle devait témoigner devant qui ?
Des élèves. Elle me dit, tu as préparé toutes mes petites affaires, hein ? Tu n'as pas rien oublié, hein, mon pantalon, mes petites chaussures. Parce qu'elle ne supportait pas de ne pas être en talons. C'est une petite femme, elle mesure 1m50. Elle a toujours porté des talons.
Ah mais c'est incroyable, je l'imaginais grande.
Non, 1m50.
Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage.
Gisèle Guimau n'est donc plus là pour témoigner, mais elle nous a laissé des interviews enregistrées et ses mémoires, un récit intitulé « Entre parenthèses ».
Je contemple le camp, sans doute pour la dernière fois. Je contemple le camp et je me souviens. Si nous survivons, comment pourrons-nous raconter ? Les longs appels meurtriers, le froid polaire, la faim, les coups, les nuits sans sommeil, la crasse, l'odeur, la peur, la mort.
La peur.
Ce ne seront que des mots.
Toujours.
Rien que des mots.
Partout.
Alors peut-être ferons-nous semblant d'avoir oublié. Mais dans le secret de nos nuits, quelles images hanteront nos insomnies ?
Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre.
C'est un livre extraordinaire. Déjà, c'est bien écrit, ça fait rire et pleurer.
L'historien Fabien Archambault.
C'est un des grands témoignages sur la déportation. Le titre vient de, entre parenthèses, hein, c'est qu'elles se sont toutes mises, entre parenthèses, pour vivre et survivre. Voilà, c'est le fait qu'elles ne s'écroulent en pleurs que le jour de la libération, quand elle est dans les camions de la Croix-Rouge internationale.
Vous dites, il fallait oublier pour survivre. Et d'autre part, il est impossible d'oublier.
Eh oui, c'est vrai, c'est une contradiction, mais c'est bien notre contradiction à nous les rescapés. On est à la fois mort et vivant. C'est sûr qu'on n'est pas tout à fait vivant. Et ce fameux complexe de culpabilité contre lequel je m'élève et qui me met un peu en colère, d'une certaine façon, il s'explique comme ça. On n'a pas quitté les morts et on ne se sent pas à l'aise d'être vivant. Donc on appelle ça le complexe de culpabilité. Moi je m'y refuse, mais je l'explique comme ça.
Ça c'est la photo de famille, donc. Mes trois frères et moi-même.
Denise Kahn, 2006.
Ça c'est Armand. Ça c'est Roger. Denise, c'est moi. Et mon petit frère André. Les mignons. Et bien sûr, papa et maman. J'ai plein de photos à la maison. Vraiment, partout où j'en ai. Donc je les vois tout le temps, je suis jamais seule. Et ça me fait vraiment plaisir de les voir tous les jours.
De son côté, Denise Kahn, notre deuxième personnage, juive survivante d'Auschwitz, est morte elle aussi, à l'âge de 90 ans, en avril 2017. Enterrée dans un cimetière juif près d'Amsterdam, qu'est-ce qu'on peut retenir de son parcours de déporté ?
Son parcours permet de mettre en avant la trajectoire de ces juifs d'Alsace, qui faisaient partie à part entière de l'histoire de France, des juifs français qui se sentaient français et qui n'ont pas échappé à la déportation, à la mort pour une grande partie de cette famille qui a été décimée.
Zoé Grimbert, historienne.
Sur son destin de déporté, être déporté tardivement, en mars 1944, lui a vraisemblablement permis de survivre. Un autre point, la solidarité de ses femmes, la protection qu'elle a pu recevoir au quotidien, et ça c'est vraiment central dans le camp de penser cette solidarité. Et en l'occurrence ici, la spécificité de cette solidarité, c'est qu'elle n'est pas politique. Et très souvent, quand on pense à la solidarité à Auschwitz, on pense beaucoup aux femmes communistes, qui ont effectivement créé des groupes très soudés, qui se sont entraidés, qui avaient parfois des positions de pouvoir, entre guillemets, qui pouvaient se sauver mutuellement. Elle n'est pas du tout dans un monde politique. Et cette solidarité, c'est une solidarité de femmes, une solidarité de destin entre camarades, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle dans les camps. Donc ça me semble un point important. Et le dernier point, c'est ce qui revient tout au long de notre discussion, c'est la nature de son témoignage. Ce phénomène qu'on constate, ce phénomène assez à la fois répandu et en même temps surprenant, c'est ça qui nous surprend toujours quand on la lit, c'est cette mise à distance comme protection pour ne pas sombrer après cette expérience des camps. Et ça, c'est fondamental pour comprendre la reconstruction individuelle qui est possible. On peut avoir une vie, elle a une vie heureuse, mais à condition de réussir, dans son cas, à mettre à distance cette expérience qui est une expérience atroce, évidemment.
Eh bien ça, c'est après mon mariage. Et Robert, il avait 1 an là, c'est pour ça qu'on a fait la photo de famille. Alors là, c'est Marcel, ça c'est Roger, ça c'est Robert, mon mari Joseph, on l'appelait toujours Jo, puis ça c'est moi-même. Voilà.
Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Enfin, amen. Notre troisième personnage, Edmond Michelet, résistant déporté à Dachau, est mort il y a déjà longtemps, le 7 octobre 1970.
Le 15 septembre dernier, M. Michelet était victime d'une congestion cérébrale. Il était alors hospitalisé dans un hôpital parisien. Il y a 3 jours, il était reconduit dans sa propriété de Marcillac, à quelques kilomètres de Brive. C'est là que la mort l'a surpris.
55 ans après sa disparition, quelle trace Edmond Michelet a-t-il laissé dans nos mémoires ?
Alors je pense qu'il n'aurait pas beaucoup aimé qu'on dise ça, mais quand même un destin hors norme. C'est-à-dire quelqu'un qui est de conditions modestes avant-guerre, une classe moyenne assez ordinaire, et que les circonstances vont hisser très au-dessus de sa personne.
Laurent Douzou, historien.
Il n'est pas singulier de ce point de vue-là. C'est ça qui est intéressant. Je citais François Verdier, fusillé après avoir été abominablement torturé en forêt de Boucone près de Toulouse en janvier 1944, Armand Dutreix, fusillé au Mont-Valérien après avoir été torturé aussi, lui c'est en octobre 1943. Mais j'ai envie de dire, ces deux socialistes francs-maçons, ce démocrate chrétien à la fois catholique enraciné, ce sont les mêmes. Et ce sont des gens qui avant-guerre avaient une vie plutôt agréable et qui tout à coup, sommés par les événements, se sont hissés très au-dessus de leurs conditions ordinaires. Et ça, c'est vrai de beaucoup, beaucoup de résistants. Et il me semble que c'est ça que moi je retiens. C'est-à-dire, c'est moins un homme exceptionnel dont il faudrait faire le procès en béatification, ce qui, vous le savez, a lieu, que quelqu'un qui symbolise ou représente parfaitement bien une résistance sans cymbales, sans fanfare, une résistance, j'allais dire, simple, qui d'une certaine manière paraît aller de soi alors que rien ne va moins de soi que la résistance. Et je crois que c'est ça que moi je retiens d'Edmond Michelet, avec évidemment, armant toute cette activité, une foi religieuse qui est vraiment impressionnante.
Rescapés de Dachau, mes camarades, nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer le premier anniversaire de notre libération.
Discours d'Edmond Michelet, 1946.
Souvenons-nous de notre joie bouleversante lorsque nos oreilles, depuis si longtemps attentives, perçurent enfin le bruit sourd des canons de la délivrance. Souvenons-nous de notre allégresse lorsque, sur les pas de nos alliés américains, arrivèrent nos frères, les soldats du général Leclerc, suivis par ceux de la première armée du général Delattre. Souvenons-nous de notre émotion lorsque nous aperçûmes les premiers fanions tricolores sur les camions de la première DB et notre fierté devant ces combattants d'une guerre moins sordide que la nôtre. Comme nous avons senti alors l'affectueuse fraternité des combattants français. Il faut que cette fraternité résiste à toutes les divergences pour que le sacrifice de nos morts garde un sens et pour que le pays auquel ils avaient offert le sacrifice suprême vive et continue dans l'union de ses fils comme à Dachau vécurent et moururent fraternellement unis celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas.
Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat,
fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat,
celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas.
Parmi celles et ceux qui ont œuvré pour maintenir vivant le souvenir des déportés, il y a les descendants de celles et ceux qui ont subi ce sinistre sort. Et parmi tous ces enfants de déportés, Serge Klarsfeld a joué un rôle crucial dans la transmission de cette mémoire, soutenue par son épouse, Beate Klarsfeld, militante anti-nazie. Ce combat, Serge Klarsfeld l'entame dès le début des années 1970.
Merci d'avoir pris sur votre temps, mon général.
Ravi de vous revoir, Serge. Alors, depuis votre service, qu'est-ce que vous êtes devenu ?
Oh, je fais de l'histoire.
J'ai entendu parler d'autres femmes. Elles manquent pas de caractère. Mais à un moment donné, il faut savoir tourner la page.
Beaucoup de gens pensent comme vous, mon général. Beaucoup trop.
Alors, Serge Klarsfeld, il est né en 1935. C'est un enfant de la guerre. Son père a été arrêté à Nice. En 1943, déporté, l'histoire est très connue. Hein. Serge Klarsfeld, sa sœur et sa mère ont évité l'arrestation à ce moment-là parce que le père de Serge Klarsfeld avait fabriqué une cache dans une armoire. Donc c'est un miracle que l'ensemble de la famille n'ait pas été déporté.
Laurent Joly, historien.
Et Serge Klarsfeld, c'est un enfant des années 60, c'est-à-dire qu'il y a un réveil de la mémoire juive, début des années 60, il y a eu le procès à Eichmann en 1961, et lui devient père en 1965, et il se dit, voilà, je dois retisser le lien avec mon père, qui s'appelle Arnaud comme son fils, et il se dit, je dois faire justice. Voilà. Et ça devient la cause de sa vie, qui va emprunter des détours, puisqu'il est marié avec une Allemande qui n'est pas juive et qui veut lutter contre l'impunité des crimes nazis. Donc, au début, il est un peu dans l'ombre, mais il a déjà l'idée. Il sait ce qu'il veut, Klarsfeld. Et c'est ça qui fait la force du militant. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut. Il veut arriver à ce qu'après qu'on ait jugé des nazis dont les crimes ont été impunis, qu'on arrive à juger aussi des Français.
Le problème avec Klarsfeld, c'est que ce n'est pas qu'un avocat. C'est un militant. Alors, ce qu'il veut, c'est reconstituer tout le mécanisme des décisions qui ont mené à la déportation les Juifs.
Son credo, c'est l'émotion. Il ne faut en aucun cas se laisser entraîner sur son terrain.
Il va avancer dans les années 70, il commence à réunir des preuves, et notamment sur les responsables de la police française des grandes raves de l'été 42, René Bousquet, le chef de la police, et son adjoint Jean Leguet, qui est l'un des bras droits de Bousquet, qui est l'un des grands responsables de ce crime dans le crime, de la séparation des enfants à Pithiviers. C'est lui qui fait cette circulaire ignoble en disant, voilà, les enfants vont partir dans des convois, mais en attendant, il faut qu'ils soient gardés par des adultes, il faut une femme pour 8 enfants. Enfin, c'est tout à fait glaçant. Donc ces gens-là sont encore vivants, ces gens-là appartiennent aux hautes sphères de la société française, c'est insupportable. Donc, il veut obtenir justice. Le climat des années 70 est de plus en plus favorable quand survient en 1978 une affaire, une grande affaire qui est l'interview de l'ancien commissaire général aux questions juives, Darquet de Pellepoix.
FR3, 1978.
Bonsoir, les titres de ce dimanche soir. Daniel Mayer, le président de la Ligue internationale des droits de l'homme, s'indigne de la publication dans l'Express des propos de l'ancien commissaire des affaires juives, Darquier de Pellepoix. 6 millions de juifs disparus, une invention pure et simple, une invention juive. À Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Les juifs n'ont qu'une idée en tête, mettre la pagaille partout, leur but, faire de Jérusalem la capitale du monde.
Darquier de Pellepoix est réfugié en Espagne. Un pigiste de l'Express l'a retrouvé, l'a interrogé. Et les propos restitués dans cet entretien publié par l'Express sont son nature à choquer. À Auschwitz, on n'a gazé que les poux. Voilà, c'est tout à fait ignoble, visqueux, mais utile pour Klarsfeld parce que Darquier de Pellepoix dit : moi, la rafle du Veldiv, je n'y suis pour rien.
La grande rafle, c'est Bousquet qui l'a organisée, de A à Z.
C'est Bousquet qui l'a organisé de A à Z.
Bousquet était le chef de la police. C'est lui qui a tout fait. Il a écopé de 5 ans d'indignité nationale. Il aurait aidé la résistance. Quelle farce. Et il a terminé directeur de la Banque d'Indochine. Ah, il s'est bien débrouillé, Bousquet. Pourtant, c'est lui qui organisait tout. Pourtant, c'est lui qui organisait tout. Pourtant, c'est lui qui organisait tout.
Donc là, Klarsfeld, qui depuis plusieurs années documente le rôle de Bousquet et de Le Guay, ce scandale immense public, c'est l'occasion, c'est l'aubaine, qui lui permet là de lancer vraiment publiquement son affaire. Alors il ne peut pas porter plainte tout de suite contre Bousquet, parce que Bousquet a déjà été jugé, donc c'est compliqué. En revanche, Le Guay était totalement passé à travers les filets de l'épuration, en tout cas judiciaire. Et donc, il peut porter plainte rapidement contre Jean Le Guay, et une magistrate inculpe assez rapidement Jean Le Guay.
Alors ça y est, Klarsfeld a déposé sa plainte contre Le Guay. Une information judiciaire vient d'être ouverte pour crime contre l'humanité. Alors Le Guay comprend pas ce qui lui arrive, il croyait que toutes ces histoires étaient enterrées, il panique.
Qu'il la boucle.
Le problème, c'est que ça va traîner, que ça va durer, et que 10 ans après, Le Guay ne sera toujours pas jugé, il mourra dans son lit.
Voilà, monsieur Bousquet, ce sont les livres que vous aviez commandés. Et tenez, voilà le livre de Serge Klarsfeld, il est d'occasion. Je vous envoie la facture, comme d'habitude.
C'est ça, merci monsieur Leroy.
Au revoir monsieur Bousquet.
Merci bien.
Qu'est-ce qu'on peut dire, Laurent Jouny, de l'influence des travaux de Serge Klarsfeld ?
Alors, c'est deux choses, le travail de Klarsfeld. C'est à la fois un travail d'historien extrêmement rigoureux, mais c'est aussi un acte d'accusation. C'est-à-dire que Vichy Auschwitz, son grand livre de 1983, est construit dans l'idée de mettre en relief les responsabilités propres de Bousquet. Alors là-dessus, il y a débat entre historiens, parce que vous avez des historiens qui vont dire là-dessus, il exagère un peu, Klarsfeld, parce que Bousquet ne prend pas d'initiative. Bousquet est un exécutant de la politique de Laval. Bon, ça peut se discuter, mais ce qui est certain, et la bonne thèse en fait, c'est que Laval et Bousquet sont complètement d'accord l'un et l'autre. Et donc, lorsque Bousquet prend des initiatives, parce qu'effectivement, il prend des initiatives, il sait qu'il a l'aval de Laval, voilà, et qu'ils sont en bonne intelligence.
Le président Laval, monsieur Daneka.
Bonjour monsieur. Alors, je vous présente René Bousquet, qui est notre directeur de la police.
Bonjour.
Bonjour. Bousquet, précisez les modalités.
Oui. Je souhaite que sur le territoire français, le règlement de la question juive soit assumé par la police française. C'est notre affaire. Ce sera plus efficace et plus discret.
C'est conforme à l'esprit de la collaboration.
Réglez les détails entre vous.
Très bien.
Donc c'est une politique criminelle de deux hommes qui est vraiment expliquée par les travaux de Klarsfeld, et sa thèse est très juste et va continuer à être affinée par l'historiographie. On se rend compte, moi qui ai travaillé sur la rafle du Veldiv, on voit très bien que la rafle du Veldiv et toutes ces opérations de l'été 42 sont vraiment le produit d'une politique criminelle décidée par deux hommes, Laval et Bousquet, qui ont mis devant le fait accompli le maréchal Pétain, qui a validé, hein, donc il a une responsabilité, mais c'est malgré tout pas lui qui a décidé, et également pris un peu, presque au piège, les autres membres du cabinet Pétain. Donc cette politique décidée à deux, c'est vraiment Klarsfeld qui, le premier, l'a parfaitement bien expliqué.
France Inter, 1989.
René Bousquet a aujourd'hui 80 ans. Il a été jugé en 1949. Pour le rejuger, il fallait un fait nouveau que Serge Klarsfeld a trouvé et qu'il vous a révélé ce matin, Brunel.
Oui, le fait nouveau, c'est la découverte par Serge Klarsfeld, après des recherches minutieuses aux archives nationales, de la pleine et entière responsabilité de René Bousquet dans la déportation à Auschwitz de 194 enfants français d'origine juive et vivant en zone libre le 26 août 1942. René Bousquet, en effet, en tant que secrétaire général de la police française, avait auparavant donné de nouvelles instructions à tous les préfets de la zone libre concernant les arrestations de juifs. Il supprimait l'exemption de déportation dont bénéficiaient jusqu'alors les enfants de moins de 5 ans, abaissant cet âge à 2 ans, ainsi que pour les jeunes de moins de 18 ans non accompagnés.
Serge Klarsfeld.
Ce que nous essayons depuis longtemps, c'est d'obtenir le procès de l'action anti-juive de Vichy, qui ne pouvait être obtenu que dans les procès de Pétain, de Laval, qui ont été des procès bâclés, dans celui de Darquier de Pellepoix, qui s'est enfui en Espagne et qui n'a pas été extradé. Et cette action anti-juive repose aussi sur les épaules de Leguet et Bousquet. Leguet maintenant a échappé à la justice par la mort et il reste Bousquet. Donc nous espérons que dans un délai tout à fait raisonnable, Bousquet sera inculpé et comparaîtra devant la cour d'assises.
Vous écrivez, Laurent Joly, dans votre livre qu'il y a un moment, Klarsfeld, entre 1983 et 98. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Alors le moment Klarsfeld, c'est vraiment une victoire, en fait, du savoir des victimes. C'est-à-dire que ce savoir qui a été construit par ces chercheurs, qui part du point de vue des victimes, qui part des archives des bourreaux, donc qui est vraiment un savoir scientifique, mais du point de vue des victimes, ce savoir, il veut conduire, et c'est la volonté de Klarsfeld, il veut conduire à une victoire mémorielle totale qui passe par une concrétisation judiciaire. Et là, ça suscite des remous. Là, des historiens universitaires se disent « mais c'est pas le rôle des historiens que d'aider la justice, c'est deux terrains différents ». Il y a donc des polémiques. Il y a donc des polémiques parce que, très clairement, Klarsfeld veut forcer la main des pouvoirs publics. À un moment, il y a des forts blocages. François Mitterrand, le président de la République, de 81 à 95, bloque très clairement les affaires judiciaires. Il bloque l'affaire Bousquet. Bousquet est un ami personnel. L'affaire Leguet, l'affaire Papon. Ces trois affaires sont bloquées. Enfin, bloquées au sens où très clairement, quand vous avez un président de la République qui dit qu'il ne désire pas ce type de procès, ça ne peut pas amener le ministère de la Justice à donner des instructions pour favoriser l'instruction et la poursuite de ces affaires.
Une dernière question sur la justice, Monsieur le Président. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle est parfois plus expéditive, plus rapide, pour certaines affaires, somme toute, relativement mineures, que par exemple pour juger les responsables de la rafle du Veldiv, dont on célèbre le 50e anniversaire ?
France 2, 1992.
C'est d'un ordre différent. Est-ce que vous voulez préciser ?
Non, je veux dire par exemple qu'un certain nombre de responsables de cette rafle n'ont toujours pas été jugés.
Si, si, ils l'ont été. Certains l'ont été. Dans les années qui ont suivi la libération. Et l'on ne peut pas dire que les lendemains de la libération aient été particulièrement indulgents.
Bon. Certains s'en sont assez bien sortis, Monsieur le Président. Je pense à M. Bousquet, qui est rapidement redevenu un banquier important, administrateur de société,
René
qui
Bousquet,
aujourd'hui est inculpé.
René Bousquet est passé devant la Haute Cour de justice. Il a été finalement condamné et sa peine a été remise par la Cour elle-même. Et même son indignité nationale, comme c'est arrivé à un certain nombre de ministres de Vichy.
Donc, Klarsfeld mène un combat, et ce combat, il va le gagner. Il va le gagner sur à peu près tous les sujets, sur le plan historique, bien sûr, avec ses travaux, sur le plan mémoriel. Le discours de Jacques Chirac, ce discours de 1995, il a une antériorité. Dès 1986, Jacques Chirac fait un discours pour l'inauguration d'une plaque en tant que maire de Paris, mais aussi les premiers ministres à l'époque, une plaque pour les martyrs du Vélodrome d'hiver. Il reprend mot pour mot la thèse de Klarsfeld en conclusion de Vichy-Auschwitz, le deuxième volume de 1985. Et ça devient vraiment une sorte de vérité officielle en France. Si 75 000 juifs ont été déportés de France, c'est à cause de Vichy, et si trois quarts des juifs ont survécu, c'est grâce à la société française. Vous voyez, cette lecture-là, c'est vraiment la lecture de Klarsfeld. Paxton, d'autres historiens ne sont pas tout à fait d'accord avec cette lecture-là, qui, d'une certaine manière, magnifie la société française en disant « c'est grâce vraiment aux Français que les Juifs ont survécu, en vérité c'est plus compliqué ». Mais cette vision-là, vraiment, Klarsfeld l'impose.
La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme,
La France, terre d'accueil, terre d'asile. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau.
C'est un discours historique, c'est pour reprendre les termes de Robert Badinter. Alors Badinter était un peu embêté parce que c'était un ministre de Mitterrand, proche de Mitterrand. Et là, il y a ce discours de Chirac. Et donc Badinter a cette phrase très forte dans un article dans le Nouvel Observateur. Il dit en fait, ce discours, c'est la victoire des historiens. Et c'est très fort et très juste. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression là d'une sorte de point d'aboutissement, d'une évolution à la fois du savoir et des consciences du public. Et Jacques Chirac ne fait que dire une vérité de l'histoire. C'est-à-dire que le gouvernement français, l'État français, a commis l'irréparable. L'irréparable, c'est cette France qui a livré aux Allemands des Juifs étrangers qui étaient venus, le droit d'asile qui n'a pas été respecté. Donc ça, c'est des mots très forts. Et donc, c'est un discours qui est très puissant, à la fois d'un point de vue historique et mémoriel, et qui va susciter une sorte de soulagement. Dans mon livre, je cite une lettre que j'ai découverte dans les archives de Jacques Chirac, les archives de la présidence, de Marcel Ophuls, l'auteur du Chagrin et la pitié. Mais il est en larmes. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ce que vous avez dit au Vélodrome d'hiver, ce discours me fait du bien, puisque Marcel Ophuls venait d'une famille qui avait été dénaturalisée, une famille juive. Et donc, il allait dire, je redeviens français grâce à vous. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment un discours qui va toucher, évidemment, les victimes et leurs proches, et qui est pour eux une extraordinaire réparation, mais qui, pour le grand public, vient comme une sorte d'évidence, parce qu'elle vient couronner une évolution, celle de ce savoir dont je vous ai parlé, et d'une évolution de la conscience publique sur Vichy. Ce qui fait que c'est comme une anomalie qui avait été réparée par rapport à Mitterrand.
Le juteux était un fervent extrémiste, le sergent un socialiste.
J'ai jamais vu, moi, Chagrin et la pitié. Et toi ?
Oui, je l'ai vu. Quand je pense qu'il a fallu attendre 10 ans pour qu'il passe à la télé. Comme si les Français n'étaient pas capables de regarder leur histoire en face.
Merci Mitterrand.
Paris. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la Sûreté.
Archives de 1942, intégrée au film Le Chagrin et la Pitié.
Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet, secrétaire général à la police, et M. Hilaire, secrétaire général à l'administration. Monsieur Heydrich a également pris contact avec Monsieur Darquier de Pellepoix, qui vient d'être nommé commissaire général aux questions juives, ainsi qu'avec Monsieur de Brinon.
Inculpé en 1991, René Bousquet ne sera jamais jugé pour crime contre l'humanité, puisqu'il meurt pendant l'instruction de son procès, assassiné au pied de son immeuble par un déséquilibré, le 8 juin 1993. Ajoutons néanmoins que ce combat mémoriel, mené par Serge Klarsfeld pendant 25 ans, se termine par une victoire judiciaire, puisqu'en 1998, ce fils de déporté parvient enfin à ses fins.
L'arrêt de la cour d'assises de la Gironde est tombé ce matin un peu après 9h10. Maurice Papon est donc condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité. Le jury a sorti cette peine de 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et familiaux.
Résumons. Serge Klarsfeld, enfant de déportés juifs, a souhaité que la France affronte son passé. Il s'est battu comme un lion pour qu'on reconnaisse enfin la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Ce que Jacques Chirac assume en 1995 et que la justice confirme en 1998. Serge Klarsfeld a donc consacré une large partie de sa vie à démasquer les criminels de l'extrême droite française durant la guerre, histoire qu'ils ne disparaissent pas dans les méandres de l'histoire.
Dis pas que pendant toutes ces années, tu t'y attendais pas un peu.
À quoi ?
À ce que les fantômes de ceux que nous avons sacrifiés reviennent pour se rappeler notre souvenir.
Jamais.
Nous approchons de la fin de cette série documentaire consacrée à la déportation durant la Seconde Guerre mondiale. Et une première question conclusive se pose. Quelle place occupent aujourd'hui les différents types de déportés dans notre mémoire collective?
Aujourd'hui, l'admiration, la compassion vont à la victime, par priorité.
Claire Andrieux est historienne.
Et dans ce cadre de pensée, la victime, c'est plus la famille juive que le héros de la résistance. Le héros de la résistance, c'est un combattant. Et même au camp, il est là et il n'a pas ses enfants avec lui. Ça change complètement.
Au risque de me répéter, vous avez le droit à 2 jours de vivre, pareil en vêtements, etc., etc. Dépêchez-vous.
Allez, les filles, aidez-moi. Pourquoi vous voulez pas nous dire où on va?
Mais parce que j'en sais rien et puis que je m'en tamponne, voilà. Allez, là!
La famille, elle est la victime. C'est une prise d'otage. C'est l'une des raisons pour lesquelles la déportation des Juifs a pris tant d'importance. C'est dans ce contexte culturel un peu particulier.
Peut-on avancer une explication à ce nouveau contexte culturel à l'origine de ce glissement dans nos mémoires?
L'explication est peut-être pas tout à fait celle-là, mais c'est un fait qu'il y a un paradoxe qui, je crois, n'est pas encore très bien expliqué. C'est la montée du modèle victimaire, du culte presque des victimes, qui s'est installé depuis environ les années 70. François Azouvi a essayé d'analyser ce phénomène et il l'analyse de la manière suivante. Le recul de la religion aurait fait que le sacré se soit déplacé sur la figure de la victime. Il y aurait donc une sacralisation de la victime et un passage au second plan du héros qui jusque-là était la figure sacrée, séculière.
Cela dit, il faut nuancer. Le déporté de la Shoah n'a pas remplacé le déporté de la résistance. C'est autre chose.
La vérité, c'est pas qu'il y a une substitution. C'est juste que les héros de la résistance sont plus tout seuls. Et qu'à côté d'eux, il y a d'autres protagonistes.
Laurent Joly.
Donc, c'est pas une substitution. Dans les années 80-90, on voit très bien que des figures comme Lucie Aubrac reste incroyablement honorée. Ça, moi, elle n'est plus toute seule. Il n'y a pas que les grands résistants. Il y a aussi ces figures de victimes. Donc, c'est plus une coexistence. Et dans le grand public, il y a les deux. Dans les classes, les profs font venir des témoins de la résistance, mais font aussi venir des enfants cachés qui, jusqu'en 95, ne parlaient pas, et qui, depuis 1995, grâce au discours de Chirac, parlent. Les enfants cachés prennent la parole dans les années 90. Moi, je vois un phénomène plutôt naturel et non pas une substitution. Même si, c'est vrai que pour le grand public, aujourd'hui, quand on pense à la déportation, on pense aux Juifs et on oublie la déportation de la résistance. Ça, c'est vrai.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une concurrence mémorielle entre les différents types de déportés?
Oui, bien sûr. Il y a forcément concurrence. Ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas le même drame. Ce n'est pas la même étendue en termes de nombre de morts. Et puis surtout, ce qui reste incomparable, c'est la déportation des enfants. Parce que cette déportation, et spécialement celle des enfants, c'est une rupture civilisationnelle. C'est un changement de civilisation. C'est ce que voulaient les nazis. Et malheureusement, encore aujourd'hui, c'est pas toujours perçu.
Nous devons expliquer logiquement et rationnellement pourquoi notre mission purificatrice était une nécessité morale et raciale.
Nous n'avons commis aucun crime.
Le Führer lui-même a dit que nous avions été élus pour achever l'œuvre du christianisme et défendre la culture occidentale.
On voit encore aujourd'hui même des collègues de l'université tenter des analyses rationnelles du nazisme. Mais le nazisme est un irrationalisme profond. C'est une subversion des valeurs de la civilisation. La civilisation existe. Bien sûr, c'est une notion relative. Il y a plusieurs civilisations. Mais au moins en Europe, l'Europe était partie sur la civilisation judéo-chrétienne, la civilisation des Lumières, la philosophie des Lumières. Et le nazisme est une rupture complète avec ce passé.
Et la conscience de cette rupture civilisationnelle est entretenue par le contact ininterrompu que nous avons eu depuis 80 ans avec les images de la déportation.
Jusqu'à aujourd'hui, on est habitué à voir ces images
et la violence nazie, ces images qui ont été faites en 45 ou celles qui ont été découvertes, les photos d'exécution sommaire prises par les soldats allemands un peu partout en Europe à partir de septembre 39, on est ultra habitué à cela.
Tal Brutmann est historien.
Sauf que si on regarde les attentats du Bataclan, personne n'a jamais vu les photos des victimes du Bataclan. Et il y a une bonne raison, on ne veut pas les diffuser. Y compris au moment du procès, les magistrats ont dit qu'il est anormal de montrer ces photos. Le seul événement pour lequel on considère qu'il est normal de montrer des images de morts de masse, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et on n'a pas compris qu'on était face à une anomalie. Habituellement, on ne montre pas les photos des corps. On les montre pour les camps, tout simplement parce que c'est initialement en 45, c'est fait pour diffuser la nouvelle de l'horreur nazie. Et puis on a continué à perpétuer cette diffusion sans se dire il est totalement anormal de montrer cela. C'est resté ancré jusqu'à aujourd'hui. Alors que montrer des photos de gens qui ont été exécutés n'est pas normal. Et c'est là où on voit qu'il y a un rapport très particulier à cet événement. On constate qu'on a beau s'éloigner dans le temps de cet événement, il demeure omniprésent. C'est un événement fondateur de la société dans laquelle on vit jusqu'à aujourd'hui. C'est un événement aussi qui a forgé notre culture. Mais c'est aussi un événement qui a forgé nos imaginaires à cause de ces images. Des images qui sont par ailleurs, paradoxalement, anormales. Et on devrait s'en détacher. Parce que s'en détacher, ça permet aussi de réfléchir à tout un ensemble de choses et à dépasser juste l'horreur qui est totalement évidente, mais qui marque d'effroi. Et l'effroi, ça ne permet pas de comprendre les choses.
Jean Gavard, ancien déporté de Mauthausen, 1995.
Montrer un tas de cadavres, c'est horrible. Ça ne représente pas la vie du concentrationnaire. Ce qui représente la vie du concentrationnaire, c'est de vivre à côté d'un tas de cadavres, et de telle manière que le tas de cadavres ne soit pas pour lui quelque chose de différent de ce que nous voyons actuellement dans une rue, par exemple, quand il y a un encombrement de voitures. Donc la haine nazie, pour moi, ça consiste effectivement à essayer de faire vivre des gens dans cette situation.
Deuxième point conclusif, la disparition des derniers témoins. Depuis 30 ans, les rescapés de la déportation ont beaucoup parlé. Mais très bientôt, il n'y aura plus aucun survivant. Il n'y aura donc plus de paroles à écouter. Une évolution inéluctable. Que faut-il en penser ?
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est effectivement une perte irréparable. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui ont vécu cette époque et qui peuvent en parler, même quand ces témoins, évidemment, ils ont un discours qu'ils répètent toujours, ils peuvent parfois se contredire, parfois on se rend compte que c'est pas exact dans les détails, mais malgré tout, la charge, la puissance de vécu, d'expérience qu'il y a, c'est incomparable. Vous allez dans une classe, vous mettez un historien à côté d'une témoin qui a vécu l'époque, ça n'a pas du tout le même effet. L'historien, il pèse pas grand-chose à côté de la parole du témoin. C'est une force extraordinaire. Et effectivement, le fait qu'il n'y aura plus ça, c'est une perte irréparable. Alors, vous me direz, il y a des vidéos, il y a des enregistrements, mais c'est quand même pas pareil. Donc, on est face à ça, cette disparition qui est irréparable, et on doit faire avec. C'est l'histoire qui va continuer à s'écrire d'une autre manière, avec peut-être sans doute, d'ici 20 ans, 30 ans, plus du tout la même importance sociale, peut-être même des réécritures de l'histoire qui auront plus d'espace et une diminution de certains crimes, c'est pas impossible.
Tova Friedman, aux 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz.
Finally.
Enfin,
we arrived at Auschwitz.
Nous sommes arrivés à Auschwitz.
And there were rows and rows of naked women.
Et il y avait des rangées et des rangées de femmes nues tout autour de moi.
What are they looking for?
Qu'est-ce qu'ils cherchent?
I asked.
J'ai demandé à ma mère.
My mother answered.
Elle m'a répondu.
Diseases.
Des maladies.
But if we are ill.
Mais si nous sommes malades.
He didn't.
Elle n'a pas eu besoin de terminer sa phrase. Elle a désigné la fumée qui s'élevait près de l'entrée du camp. Je savais, à 5 ans et demi, ce que ça voulait dire. on le savait tous.
We all knew.
Ce qui est terrible, c'est que ce moment-là, qu'on a vu au 27 janvier 2025, où là, vraiment, 80 ans après, c'est la dernière fois, c'est les télés, les radios qui n'arrivaient plus à faire venir des témoins, les gens sont centenaires, sont en chaise roulante, il n'y a plus personne, pratiquement. Et cette coexistence entre ça et puis l'arrivée de Trump au pouvoir, avec cette espèce de volonté de rayer tout ce qui est le produit de la victoire sur le nazisme, de ces alliances entre les grandes démocraties autour de leurs valeurs, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez vertigineux. Voilà, je trouve ce moment de disparition des grands témoins de la Deuxième Guerre mondiale et de ce moment nouveau géopolitique dans lequel on est plongé.
So I'm here to talk about those.
Je suis donc ici pour parler de ceux qui ne sont plus là.
However, we are also here.
Mais nous sommes aussi ici pour proclamer et promettre que nous ne laisserons jamais, jamais l'histoire se répéter.
Allow history to repeat itself. Thank you.
Pour clore cette série consacrée aux déportés, que dire ? D'abord, retenez bien que le mot « déporté » recouvre des réalités très diverses, des réalités incarnées par nos trois personnages. On a pu être déporté parce que résistant, comme Edmond Michelet et Gisèle Guimaud.
Quel est ton rôle dans la résistance, hein ?
Déporté parce que juif, comme Denis Kahn.
Nos estimations nous indiquent qu'il y a 11 millions de juifs en Europe. Et la solution finale les concerne tous.
Tous ?
Mais aussi déporté parce qu'ennemi du régime de Vichy. Déporté parce que tzigane. Déporté parce qu'homosexuel. Autrement dit, les déportés forment une longue cohorte d'adversaires et de victimes du nazisme. Leur point commun, la négation par les nazis et leurs supplétifs de leur dignité humaine. Une véritable rupture civilisationnelle. Ensuite, ayez bien en tête qu'un camp de concentration est très différent d'un centre de mise à mort. Être un déporté résistant au camp de Dachau, ce n'est pas être un déporté juif qui arrive sur la rampe à Birkenau pour y être directement exterminé. La déportation peut donc conduire à la fois à la détention des adversaires politiques dans des conditions atroces, mais aussi au meurtre de masse. Enfin, nous allons tous devoir apprendre à vivre sans celles et ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale dans leur chair. Les déportés rescapés étaient des vigies, conscientes des capacités de l'homme à organiser le pire. Mais cette expérience de la déportation a aussi permis de constater que dans les pires conditions de détention subsiste chez certains hommes et chez certaines femmes quelque chose qu'a aperçu Edmond Michelet, le grand résistant déporté à Dachau, et à qui nous laissons les mots de la fin, comme une source d'espoir.
Je pense que la conclusion, et je le dis, c'est tout de même un sentiment profond et très réconfortant de la grandeur de l'homme. L'homme est plus grand qu'on ne le croit, plus grand que les idéologies auxquelles il se rattache. Il y a chez l'homme, pris dans un ensemble comme celui que nous avons connu, des possibilités immenses. Et ce sont ces possibilités immenses que j'ai vues vraiment jour après jour pendant de très longs mois. Ce sont ces possibilités que j'ai vues vivre sous mes yeux qui font que, contre vents et marées, je crois dans la grandeur de l'homme.
Les déportés. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Reportage, Martine Abbat. Mixage, Basile Bocquer, Baptiste Collion. Les déportés est un podcast original de France Inter.